Et effectivement, aujourd'hui va être un peu différent puisque, comme vous avez remarqué, je n'ai pas invité les enfants à descendre puisque ce matin, il n'y a pas d'enseignants. Alors, exceptionnellement, ce ne sera pas la fin du monde, bien sûr. Les enfants vont rester avec les grands. Alors, je suis convaincu, les enfants, ils sont intelligents. Hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, les enfants, ils captent pas mal sont assez intelligents, donc voilà, ce sera une bonne expérience pour eux aussi d'être là et d'essayer de saisir, de voilà, être comme des grands. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Et tout de suite, on pourrait me dire, mais Robert, ceci n'a rien à voir avec des enfants, puisque ici on va parler des adultes, on va parler des femmes, on va parler des maris. Si on n'est pas marié, on va dire, moi ça s'applique pas à moi. Et pourtant, nous allons voir qu'effectivement, nous sommes tous concernés, quel que soit l'âge, qu'on ait 100 ans, qu'on en ait 5, et tous les âges entrent, ceci s'applique à nous. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, déjà, le verset 1, nous allons lire un passage allant de verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, pas mal de choses à voir dans ce passage. On va essayer donc de voir un maximum. Alors, premier épître de Pierre, chapitre 3, à partir de verset 1 jusqu'au verset 8. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants, que tu diriges notre pensée, que l'Esprit puisse nous rendre capables de comprendre ce que tu as pour nous et que par ta puissance, tu nous aides à le mettre en pratique aujourd'hui et chaque instant de notre vie pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je me suis fait la réflexion en lisant ce passage, si on devait prendre ce texte de la Bible et aller lire ce texte dans la rue, aller sur la place de la mairie et lire ça à haute voix, je me suis dit, mais quelle serait la réaction des gens autour? À votre avis, est-ce qu'ils accepteraient cela? Non. Tout de suite, on voit la première phrase de ce passage. « Femme, soyez soumise à votre mari. » On risquerait presque la prison en disant ça. Bon, peut-être pas à ce point, et surtout pas dans ce pays, peut-être dans d'autres pays. Mais tout dans ce passage, du début jusqu'à la fin, va totalement dans le sens opposé de ce que nous voyons autour de nous dans le monde. Les collègues de travail que nous pouvons avoir, les jeunes à l'école, ce qui est enseigné à l'école, ce que nous voyons à la télé, ce que nous regardons sur Internet, ce que nous lisons, va complètement contre ce qui est expliqué dans ce passage. Et si nous sommes enfants de Dieu, si nous voulons suivre la Bible, nous devons rejeter l'exemple que le monde nous donne et suivre l'exemple que nous voyons dans ce passage. Et Pierre, ici, va faire un lien dès le premier verset avec quelque chose qu'il a déjà dit dans le chapitre 2. Et pour cela, il faut remonter au verset 18 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 18, Pierre va dire « Serviteurs, soyez soumis ». Alors, c'est exactement la même expression que nous voyons au chapitre 3, verset 1. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons, mais à ceux qui, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Et puis, il faut remonter également au verset 13, puisque Pierre, il va dire exactement la même chose. Verset 13, « Soyez soumis, c'est la même expression, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, et ainsi de suite. » Donc, Pierre, ici, ce qu'il fait, il commence à l'extérieur, le plus large possible. « Soyez soumis, restez en dessous », c'est le sens littéral du mot, « restez en dessous de l'autorité, quelle qu'elle soit. » Et nous avons tous des autorités qui sont au-dessus de nous. Et ensuite, eh ben, il devient un peu plus étroit, un peu plus précis, en parlant au verset 18 de l'emploi. On peut le dire dans ces termes-là, serviteur, maître. Et il dit là aussi, serviteur, vous avez l'obligation d'être soumis. Et ensuite, eh ben, il devient encore plus étroit, plus personnel au chapitre 3, verset 1. Femme. Ben maintenant, on est à la maison. Ce n'est pas simplement ce qui se passe à l'extérieur. Pierre dit, il ne s'agit pas de donner une bonne impression à l'extérieur, comme si tout va bien, on ne se doute de rien, mais qu'à la maison, c'est la catastrophe. Combien de familles chrétiennes, combien de familles qui professent connaître Christ comme leur sauveur, il y a un décalage énorme. Une métamorphose et une transformation complète quand on arrive le dimanche matin pour le culte. Ou bien quand on va au travail. Trop souvent, il y a un décalage entre l'image qu'on présente à l'extérieur et l'image qu'il y a à la maison. Imaginez si on venait s'installer chez vous pendant une semaine. Bon, déjà, ce serait assez dérangeant, mais ce serait aussi assez gênant. Parce que, qu'on le souhaite ou pas, on se voit assez rarement. Quand on prend une semaine, avec toutes les heures de la semaine qu'il y a, ben, finalement, on ne se voit pas tant que ça. Par contre, à la maison, ben, on se voit tout le temps, n'est-ce pas? On connaît les petites frustrations. On connaît un peu les crises qu'il peut avoir. On sait ce qui frustre l'autre. Les frères et sœurs, ils sont, j'allais dire formidables, ce n'est pas le mot qu'il faut. Ils sont vraiment les maîtres de cela. Irriter son frère ou sa sœur, bah, ça on sait tout à fait le faire. Les enfants savent irriter les parents. Malheureusement, les parents savent irriter les enfants. Et Pierre dit, il ne doit pas avoir un décalage entre l'image qu'on présente à l'extérieur et comment ça se passe à la maison. Et s'il y en a, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est important de présenter une bonne image à l'extérieur. Qu'on soit clair là-dessus, les gens, quand ils nous rencontrent dans la rue, au travail, même à l'école, il faut que les gens ils aient une impression juste de nous. Mais il faut que ce soit pareil à la maison. Et Pierre ici dit que ça commence avec les parents. Pour les mariés, pour les femmes, et bien sûr, ben, dans un instant, on va parler des enfants. Mais Pierre, il va souligner le rôle de la femme d'abord. Pourquoi? Parce qu'il va passer quand même 6 versets à parler des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont bien plus de travail à faire que les hommes? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais parce que leur rôle est tellement important dans la maison que ici, Pierre veut leur montrer combien c'est important et ce que Dieu attend d'elle. Alors, au verset 1, nous y revenons. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Les femmes, alors les femmes, je m'adresse à vous, que vous soyez mariées ou pas, que chacune soit de même soumise à son mari. Là, on se dit, ok, si je suis mariée, pas de souci, je me soumets à mon mari. Mais si je ne suis pas mariée, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, il y a quand même des autorités que Dieu place. Cette idée de soumission, elle est partout dans ce passage. Alors, si je ne suis pas mariée, je n'ai pas le droit de dire « je fais ce que je veux ». Personne n'a le droit de me dire bah, « les femmes qui sont mariées, elles sont à plaindre parce qu'elles ont besoin de se soumettre à leur mari et tout. Moi, je suis affranchie, moi, je fais ce que je veux ». Non, 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 non. Vous le savez. Ici, même si Pierre s'adresse spécifiquement aux femmes mariées, cette idée de soumission, elle est partout dans ce passage. Et il est vraiment dommage, il est vraiment triste que l'idée de soumission a été tellement tordue dans notre société qu'on en est arrivé à comprendre que c'est une idée mauvaise, que c'est quelque chose de mal, la soumission. Mais la Bible présente la soumission comme une bonne chose. Et ce passage nous le montre. La soumission des femmes à leur mari, à leur propre mari. Alors, bien sûr, qu'on soit clair ici, ce n'est pas une femme qui se soumet à tous les maris. Non, 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 non. C'est à son propre mari, c'est l'idée du texte ici. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ici, Pierre comprend qu'il arrive des moments où une femme soit mariée avec un inconverti. Il reconnaît la réalité de cela et il dit « la femme chrétienne a la possibilité de gagner son mari, même sans parler, par sa façon de vivre. » Quelle grâce extraordinaire pour la femme d'avoir un impact tellement important dans sa famille. Ce qui fait que l'insoumission, un manque de soumission de la part de la femme dans la famille pourrait être un obstacle au salut de quelqu'un. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui n'est pas soumis dans la famille, là c'est spécifiquement des femmes, mais comme la soumission est exigée de la part de Dieu, lorsqu'on ne le fait pas, on pourrait être un obstacle au salut de quelqu'un. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Je pourrais faire obstacle au salut de quelqu'un, alors que Dieu veut sauver cette personne, Dieu veut se servir de mon témoignage pour atteindre cette personne. Mais si cette personne ne voit pas en moi le témoignage qu'il faut, je risque d'être un obstacle. Et Dieu ne veut pas du tout cela. Et Pierre dit ici qu'il soit gagné sans parole, sans même besoin de parler, par la conduite de leur femme. Voilà l'impact de la soumission. Loin d'être une chose négative, loin d'être cette idée de on se fait marcher dessus, on n'a pas son mot à dire, et puis on se rabaisse, on s'écarte, on ne fait rien. Non, 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 c'est un sens positif où j'obéis à Dieu, je respecte mon mari, et à travers cela, je lui apporte, si il n'est pas sauvé, je lui apporte un témoignage qui le poussera à comprendre qu'il a besoin d'être sauvé. C'est quelque chose de tellement important. Et au verset 2, bien sûr, Pierre va montrer que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est là où ça doit commencer. On ne peut pas fabriquer cela à l'extérieur. Qui voit votre manière chaste de vivre, cette manière de vivre chaste et respectueuse, donc c'est à l'intérieur. Et au verset 4, la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Les femmes, est-ce que cela vous décrit? Oui, non, peut-être, parfois, pas toujours. Nous voyons que c'est l'attitude que Dieu veut pour ses enfants. Et c'est en ayant cette attitude que nous pourrons apporter un témoignage de Dieu Et cela doit commencer à l'intérieur, dans notre esprit, dans nos pensées. Et malheureusement, trop souvent, on commence à l'extérieur. Pierre le reconnaît. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure, tout ce qui est dans les apparences. Et qu'est-ce que c'est ? Ben, les cheveux tressés, être bien coiffé. Alors, je suis content que vous avez pris le temps ce matin de vous faire beau pour le dimanche matin. Cela est convenable. On vient adorer Dieu. Dieu mérite qu'on vienne devant lui avec un respect, en étant bien habillé, parce qu'on vient devant le grand Dieu de l'univers. Tout à fait normal. Mais ici, Pierre montre que l'extérieur n'est pas le plus important. Il y a une importance, mais ce n'est pas là où on doit commencer. Cette parure extérieure, cette apparence, oui, des cheveux tressés, des ornements d'or, des bijoux, les habits qu'on revêt, tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas le plus important. C'est important, comprenons bien. Certains sont allés dans le sens, l'extrême opposé, en disant l'apparence n'a aucune importance. Non, ce qu'on met a de l'importance. On n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment. Venir à l'église bien habillé est tout à fait normal et tout à fait correct. Mais c'est la raison pour laquelle on le fait. Est-ce que je m'habille bien pour que d'autres le voient ? Pour qu'ils disent « Ah oui, quelle belle chemise, quelle belle robe pour les femmes, quel beau tennis pour les garçons. » Pour qu'on me voie, moi, pour qu'on parle de moi. Pierre dit « Non, 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 non. L'extérieur a son importance, mais ce n'est pas là qu'on doit commencer. Je m'habille bien parce que je viens devant Dieu. Parce que déjà à l'intérieur, je suis en paix avec Dieu. Je veux porter ce respect envers Dieu. » Et encore une fois, il y a un décalage souvent entre comment notre cœur se sent, comment nous ressentons à l'intérieur vis-à-vis de Dieu, et ce que nous mettons. Imaginons si on s'habillait toujours comme on se sentait à l'intérieur. Il y aurait sûrement des problèmes. Mais ici, Pierre dit, ça doit commencer à l'intérieur. C'est ça le plus important. Il y a quand même une importance dans les apparences, mais ce n'est pas là que nous devons commencer. Et lorsque nous voyons à la fin de verset 4, cet esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Nous, nous voyons les apparences. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Samuel quand Samuel devait choisir David en tant que roi ? L'homme regarde aux apparences. L'homme regarde la taille. L'homme regarde la beauté. Mais Dieu, qu'est-ce que lui, il voit ? Là, il voit le cœur. Il voit l'intérieur. Et parce que nous pouvons tromper ceux qui nous entourent, nous pouvons donner une bonne image. Parfois, nous tombons dans ce travers de penser que nous pouvons tromper Dieu. Et quand on le dit comme ça, on se dit, mais c'est tellement ridicule. Tromper Dieu, il voit tout. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas rouler Dieu dans la farine. C'est lui qui l'a fait, la farine. Dieu voit tout. Et lorsqu'il voit en nous un esprit doux, un esprit de soumission, un esprit paisible, cette pureté incorruptible que nous voyons dans ces versets, Dieu dit, ça a de la valeur. C'est ça que Dieu veut. Et lorsqu'il y aura ces sentiments en nous, ça va se refléter à l'extérieur. Et Pierre, ici, il dit, c'est ce qu'il faut à la maison. Il faut que ça se passe à la maison. C'est pas la peine d'essayer de faire bien à l'extérieur si ça va pas à la maison. C'est à la maison que ça doit commencer. Et ensuite, les effets de cela vont s'étendre à l'extérieur. Et à partir de verset 5, Pierre va relever quelque chose qui nous aide vraiment aujourd'hui. Puisque Pierre va dire, c'est exactement la même chose aujourd'hui que dans le passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas non plus quelque chose de démodé, comme si on devait changer, mettre les choses à jour. Non, c'était comme ça dans le passé. Regardez verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Ben, comment est-ce qu'ils se paraient ? Avec les mêmes vêtements à l'extérieur ? Non, ça avait changé. Entre l'époque de Pierre et l'époque dont il va parler, l'époque de Sarah, ben, pratiquement 2000 ans. Vous vous rendez compte ? Énormément de temps. Croyez-moi, les habitudes de vêtements avaient changé entre l'époque d'Abraham et l'époque de Pierre. Donc, bien sûr, ce n'est pas des apparences extérieures dont Pierre parle ici. Non, il dit, c'est cette parure intérieure. C'est comment on est à l'intérieur qui doit être paré. Ces saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La soumission était valable dans le passé, c'est encore valable aujourd'hui. Et 2000 ans après Pierre, la soumission est encore valable, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. On va dire aujourd'hui, dans la société, la soumission est démodée. C'était peut-être valable pour des gens du passé, parce qu'ils ne savaient pas mieux, n'avaient pas compris certaines choses. Mais nous, des personnes éclairées, des personnes avec beaucoup plus de connaissances, on n'a plus besoin de cela aujourd'hui. Et Pierre dit, non, c'était valable dans le passé, c'est valable aujourd'hui. Et la Bible ne change pas, la Bible est encore actuelle aujourd'hui. Et Pierre dit, c'est comme ça, Dieu s'attend à la soumission. Et il prend Sarah, la femme d'Abraham, comme exemple. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur, ou littéralement son maître. Alors, vous, les femmes mariées, avez-vous déjà appelé votre mari maître, hein? Ne commencez pas à le faire. Hein? Et Marie, n'exigez pas cela. Ce n'est pas ce que ce passage dit. Pierre reconnaît ce que Sarah fait ici. Et en même temps, nous nous souvenons que c'est Sarah qui a proposé sa servante à Abraham pour que lui, il ait des relations avec elle pour avoir un fils. Donc, ça venait de Sarah. Alors, est-ce que vous appelez ça de la soumission ? Non, pas du tout. Et pourtant, ici, elle reçoit cette louange qu'elle obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. Elle avait cet esprit de soumission et son exemple de soumission et même d'obéissance. En suivant son mari, Pierre dit, c'est ce que les femmes à son époque et ainsi de suite, pour nous aujourd'hui, nous devons faire. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, au verset 6, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, la fin de ce verset est assez intéressant, mais ce verset 6 nous montre que lorsque on accepte Christ comme son sauveur personnel, nous entrons dans cet héritage d'hommes et de femmes qui ont obéi à Dieu, que nous devons imiter leur exemple. Et puis, à la fin de verset 6, « sans vous laisser troubler », alors c'est littéralement la façon dont Pierre s'exprime, c'est « sans avoir peur de la peur ». Okay, c'est littéralement comme ça qu'on pourrait le traduire, « sans avoir peur de quoi que ce soit ». Et on se pose la question, mais de quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur dans la soumission, dans l'obéissance ? Pourquoi est-ce que la soumission et l'obéissance pourraient nous faire peur? Et c'est pour la simple et bonne raison que lorsqu'on est soumis, lorsqu'on est obéissant, on est entre les mains de quelqu'un d'autre. On ne gère pas son propre sort, si je peux employer ce terme. On n'est pas maître de sa propre destinée. Ça, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et cette personne pourrait nous faire du mal. Et par peur, nous ne voulons pas être soumis, nous ne voulons pas obéir par moment. Et ici, Pierre dit, non. À la maison, dans la famille, surtout entre mari, femme, il ne doit pas avoir de la peur. Jean va l'exprimer ainsi, l'amour parfait bannit la peur. Et ici, les femmes, lorsqu'elles se soumettent, lorsqu'elles sont obéissantes à leur mari, ne doivent pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, au final, qui s'occupe de la chose. Les maris ne sont pas parfaits. Et toutes les femmes disent « Amen ». Mais les femmes non plus ne sont pas parfaites. Il arrive aux maris, aux femmes, de se tromper. Il arrive aux parents de se tromper. Il arrive aux enfants de se tromper. D'ailleurs, c'est très fréquent. Et parce que nous sommes faillibles, parce que nous faisons des erreurs, parce que nous sommes égoïstes par moments, parce que on ne fait pas toujours ce qu'il faut, on va avoir peur que l'autre va me faire du mal. Peut-être pas délibérément, mais juste par erreur. Mais lorsque nous avons la perspective que cette soumission, elle se fait à Dieu, lorsque nous savons que Dieu s'occupe de tout, à ce moment-là, toute la peur s'en va, parce qu'on est entre les mains de Dieu. Et lorsque nous avons les yeux fixés sur Dieu, la femme, elle est capable de se soumettre, d'obéir à son mari, comme elle doit le faire à Christ. Alors, Pierre, il passe 6 versets à s'adresser aux femmes. Leur responsabilité est grande. Et là, Pierre va passer juste un seul verset à parler des maris. Parce qu'eux, ils sont déjà presque parfaits. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, ici, dans ce verset 1, parce qu'il avait déjà beaucoup parlé des hommes, mais il veut faire quelques petites précisions. Marie, soyez soumis à votre femme. Toutes les femmes auraient aimé que le verset commence comme ça, n'est-ce pas? Mais non. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Alors, littéralement, ce que Pierre est en train de dire ici, c'est la vie ensemble doit être harmonieuse. Votre cohabitation, votre vie ensemble doit être harmonieuse. Et cette sagesse, bien sûr, vient de la part de Dieu. Et Pierre reconnaît que, à plusieurs niveaux, la femme, elle n'est pas, entre guillemets, aussi costaud que l'homme. Dieu l'a fait ainsi. Et Dieu a donné le mari à la femme pour qu'il la protège, pour qu'il s'occupe d'elle. Puisque, effectivement, elle a des besoins. Et Dieu a voulu que le mari soit là pour s'occuper de ses besoins de sa femme. Il n'a jamais voulu qu'on soit seul. Et ici, les maris doivent avoir beaucoup de sagesse. Alors, femmes, il faut prier pour vos maris. Marie, il faut prier pour vous-même pour avoir la sagesse. Enfants, priez pour vos parents. Leur tâche n'est pas simple. Il suffit de se regarder soi-même pour se rendre compte. Okay? Les enfants, parfois vous rendez la vie difficile à vos parents. Okay? Il faut le reconnaître. Priez pour vos parents. Les parents, priez pour vos enfants. Dans ce monde, nous avons besoin de cette sagesse. Et Pierre, il va continuer parce que ce n'est pas simplement de vivre cette vie harmonieuse, mais regardez, honorez-la. La mettre en avant. Honorez-la. Concrètement, vous, Marie, comment est-ce que toutes les semaines, vous honorez votre femme? Et si la réponse à cette question, c'est « je ne le fais pas vraiment », cette semaine serait peut-être la semaine à commencer. Et vous allez voir, vous commencez à faire ça, votre vie de couple, votre vie de famille va changer radicalement. Ici, les hommes sont appelés à honorer leur femme. Ce qui fait que lorsqu'ils ne le font pas, lorsqu'ils ne la mettent pas en avant, à ce moment-là, on est en porte-à-faux avec ce passage. Et puis, Pierre, ici, élève la femme au même rang devant Dieu que les hommes. C'était quelque chose de radical pour l'époque. Ici, il dit comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Les femmes sont sauvées exactement de la même manière que les hommes. Pas de distinction. Les femmes ne sont pas des demi-chrétiennes. Non, les femmes sont des chrétiennes à part entière. Et parce que devant Dieu, il n'y a pas cette distinction, on doit les traiter avec respect, on doit les honorer. Dans un mois environ, on va célébrer la fête des mères. C'est bien qu'un jour spécial soit réservé au moment, mais ça devrait être toute l'année. Toute l'année, on doit remercier Dieu. Et à la fin de verset 7, Pierre va dire quelque chose de tellement radical. On a presque du mal à croire. Mais c'est marqué dans la Bible, alors il faut le croire. Mais c'est tellement radical. Qu'il en soit ainsi. Marie, honorez votre femme. Vivez en harmonie avec elle, afin que rien ne vienne interrompre vos prières. C'est littéralement le sens de ce que Pierre dit. On a traduit « face obstacle », mais c'est l'idée de « interrompre ». Et Pierre dit ici, quand ça ne va pas dans le couple, vos prières sont interrompues. Comment voulez-vous que Dieu écoute les prières d'un mari et une femme qui sont en guerre l'un contre l'autre, qui sont dans l'indifférence, où la relation n'est pas ce qu'elle doit être? Comment voulez-vous que Dieu écoute et réponde aux prières de personnes qui ne s'entendent même pas? Il ne peut pas. D'où l'importance de la réconciliation. Et Pierre dit, les prières peuvent être empêchées, peuvent être interrompues si ça ne se passe pas bien entre mari et femme. Et ça commence avec le mari. La responsabilité tient du côté du mari. Les maris sont dans l'obligation d'agir comme il faut, de bien traiter leur femme. Et bien sûr, les femmes ont leur responsabilité d'être soumises, d'être obéissantes, d'aider leur mari. Et nous voyons dans le monde tellement de mauvais exemples de ceci. On le voit tellement qu'on pense que c'est la norme. De toutes les façons, c'est comme ça, on n'y peut rien. On ne changera jamais, alors on vit la vie quotidienne et à point c'est tout. Non, Dieu veut autre chose pour ses enfants. Et Dieu dit, vos prières seront empêchées. Je ne vous écouterai pas si vous ne réglez pas les choses entre vous, mari et femme. Et si il y a des obstacles, il y a des interruptions à nos prières, comment voulez-vous qu'on progresse dans la vie chrétienne? Ce n'est pas possible. On sera empêché. Et nous voyons que les maris portent cette lourde tâche de s'assurer que ça se passe bien à la maison. Les femmes sont là pour les soutenir et doivent bien accomplir ce rôle. Et Pierre met tout cela sous la soumission. Il dit que ça doit bien se passer à la maison. Mais il ne parle pas simplement aux adultes, aux parents. Puisque au verset 8, enfin, oui, les femmes ont leurs responsabilités. Et gare à vos femmes si vous ne le faites pas. Vous êtes dans la désobéissance si vous n'imitez pas ce passage. Marie, vous êtes dans la désobéissance si vous ne vous conformez pas à ce passage. Et les prières n'iront pas plus loin que le plafond si on est en désobéissance avec ce passage. Mais pour ne laisser personne de côté, afin que tous soient inclus, verset 8, Pierre va dire « Enfin, finalement, soyez tous, ici, sans exception, parents, enfants, qui que ce soit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. » Et j'ai lu ce verset. Alors c'est assez intéressant, dans le grec, Pierre va employer des termes ici qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Il va employer quelques termes assez spéciaux, des expressions particulières, parce que c'est tellement important. Et cette idée de même pensée, on va dans la même direction, et des mêmes sentiments. Bien sûr, ce sont de bonnes pensées, de bons sentiments les uns envers les autres. Ceci est l'extrême opposé de l'indifférence des 10 sentiments qu'il pourrait avoir. Ceci est loin des soupçons, de la rancune, de l'amertume. Pierre dit ici, nous devons avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de la chose ? Un mari, une femme, viennent souvent d'arrière-plan bien différents pour former un seul couple, une seule famille. Et ensuite, cette famille est dans une église composée d'autres familles avec un arrière-plan aussi très différent. Lorsque je regarde la salle aujourd'hui, je vois une variété énorme et je loue le Seigneur pour cela. En même temps, je reconnais que ces arrière-plans, nos expériences, nos âges différents rendent cette unité de pensée et de sentiment difficile. Mais même si c'est difficile, cela n'est pas impossible. Dieu ne nous appelle jamais à faire quelque chose qui est impossible. Alors, si nous sommes appelés ici à avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées, ça veut dire que c'est possible. Cela ne veut pas dire que nous aimons tous la même chose. Moi, j'aime bien les voitures. Je sais que tout le monde n'aime pas les voitures. Moi, j'aime bien le baseball, mais c'est un sport typiquement américain. Donc, tout le monde n'aimera pas cela. D'autres vont aimer ceci, d'autres vont aimer cela. Ça ne veut pas dire que nous aimons tous la même chose, mais cela veut dire que lorsque nous sommes ensemble, nous recherchons le bien, nos objectifs vont dans le même sens. Cela veut dire que ça se passe bien. Et lorsque ça ne se passe bien, ben nous réglons la chose. Nous ne la laissons pas. Et Pierre, en plus de cela, va dire... Même pensée, même sentiment, plein d'amour fraternel. Les repas fraternels que nous avons, ben gloire à Dieu, nous passons du temps ensemble, c'est super. Et pourquoi est-ce que nous voulons que ça se passe bien? Tout simplement pour qu'on soit tranquille, qu'on ne soit pas embêté. Non, c'est pour montrer l'amour de Dieu à travers nous. Plein d'amour fraternel, de compassion. Alors c'est assez intéressant, ce mot ici, c'est le même mot que Paul, il va employer dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, quand il va dire « Soyez bons les uns envers les autres ». De compassion. Nous passons par des moments difficiles. Et on va dire « Ouais, mais moi, ma situation, elle est tellement difficile. » Oui, les autres passent par des moments difficiles, mais franchement, moi, c'est dur. Et peut-être vrai, c'est peut-être ça. Mais nous avons l'obligation d'avoir la compassion envers tous. Et je reconnais que par moments, je manque vraiment de cette compassion. Pourquoi ? Parce que parfois, je l'admets, j'ai cette pensée. C'est vrai, cette personne est dans telle ou telle difficulté, mais c'est de sa propre faute. Il a fait tel ou tel mauvais choix, il subit les conséquences de ce mauvais choix, donc c'est dommage, mais tant pis. Et lorsque je lis ce verset, je me rends compte que cette pensée, elle n'est pas bonne. Il est vrai, des personnes subissent les mauvaises conséquences de leur mauvais choix. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons dire, ben, bien fait pour lui. Il a fait le mauvais choix, qu'il subisse les conséquences. Non, 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 non. Imaginez-vous si Dieu... Il agit comme ça envers nous. Ben, mes enfants, vous avez choisi la mauvaise voie. Ben, tant pis, allez-y, débrouillez-vous. Revenez vers moi quand vous pouvez faire mieux. Non, non, non. Dieu alors que nous étions ses ennemis. Il est venu nous chercher et il exige ce même sentiment de notre part. C'est vrai, nos frères et sœurs font parfois de mauvais choix. Soyons un peu plus personnels, parfois nous, moi, je fais de mauvais choix. Et lorsque je le fais, mes frères et sœurs doivent avoir compassion de moi. Lorsque les autres le font, moi, je dois avoir compassion d'eux également. Et Pierre va terminer ce verset 8 en disant « Nous devons être remplis d'humilité. » Humilité, pourquoi ? Parce que parfois, nous nous trompons. Levez la main si vous ne vous êtes jamais trompé dans votre vie. Je ne veux voir aucune main. Parce qu'on se trompe tous. Hein? Et lorsque nous nous trompons, quelle est notre première réaction? Bah, souvent, c'est d'essayer de se justifier. Ouais, je me suis trompé, mais... Non. Je me suis trompé, mais c'est parce que... Non. L'autre m'a fait... Non. Je me suis trompé, je le reconnais. Je demande pardon si c'est approprié. Mais reconnaître ses torts, nous le savons, bah, ça exige de l'humilité. Mais aussi, humilité parce que nos frères et sœurs ne sont pas au même stade, ne sont pas au même niveau de maturité, ne sont pas encore arrivés au stade de connaissance que nous avons. Certains sont plus loin, d'autres ne sont pas encore arrivés au niveau là où nous sommes. Et si nous ne sommes pas remplis d'humilité, nous pouvons devenir frustrés, nous pouvons mal agir, nous pouvons mal penser, alors que l'humilité nous aide à voir l'autre tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu le voit, et me permet d'agir envers cette personne comme Dieu. Cette humilité, se regarder justement, regarder les autres tels que Dieu les voit est quelque chose de tellement important. Et bien sûr, l'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. On veut toujours croire qu'on est meilleur qu'on est en réalité. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons avoir cet esprit d'humilité. Et ceci s'applique à tous. Ce n'est pas simplement pour des gens spirituels. Ce n'est pas juste pour les autres. Ce n'est pas juste pour les parents. Ce n'est pas juste pour les enfants. Ceci s'applique à tous. Dans nos rapports les uns avec les autres, à la maison, est-ce que vous retrouvez ces choses? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on devait s'installer chez vous pendant une semaine, peut-être ça c'est trop long. Allez, 2 jours. 24 heures. Si on devait venir chez vous pendant 24 heures, quel serait le constat? Est-ce qu'on pourrait repartir de chez vous en disant « J'ai été encouragé. Je vois la grâce de Dieu agir dans cette famille. » Ou est-ce qu'on repartirait en disant « Cette famille a là du travail. » Il y a des choses à changer. Bien sûr, chaque famille doit s'examiner. Les maris, vos responsabilités sont grandes. Les femmes, vos responsabilités sont grandes. Les enfants, ce n'est pas précisé dans ce passage, mais dans bien d'autres passages, nous voyons vos responsabilités sont grandes. Obéissez, honorez. Et même si nous ne sommes pas chez vous 24 heures sur 24, et vous pouvez en remercier Dieu, Dieu est. Dieu est chez vous tous les jours, à chaque instant. Et qu'est-ce qu'il voit? Et au lieu de nous décourager en disant « ça c'est quelque chose, on ne pourrait jamais y arriver. » Là c'est demander de trop quand même. Peut-être c'est bien pour les autres, des familles super spirituelles, elles pourraient y arriver, mais ma famille à moi, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible. Si Dieu met ceci dans sa parole, cela montre que chaque famille chrétienne est capable d'atteindre ceci. Votre famille peut ressembler à ce passage. Votre famille peut manifester la puissance et la grâce de Dieu à travers ce que nous voyons dans ce passage. C'est possible. C'est quelque chose qui est formidable que Dieu ne nous laisse pas avec cette parole en disant « Faites de votre mieux et on verra par la suite. » Non, 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 non. Par la prière, par la parole, par la relation les uns avec les autres, par l'aide que nous pouvons apporter les uns aux autres dans l'Église, ceci est possible. Mais cela passe par une demande à Dieu. Dieu, aide-moi. Je reconnais par moi-même, ce n'est pas possible. Par moi-même, je serai orgueilleux. Par moi-même, je serai indifférent. Par moi-même, je ne vais pas rechercher le bien de l'autre. Par moi-même, je ne serai pas soumis. Par moi-même, je ne vais pas honorer ma femme. J'ai besoin de ton aide. Et lorsque nous faisons cette prière, Dieu répond. Dieu va dire, mon enfant, je te la donne cette aide. Je te rends capable pour le faire. Alors, cette semaine qui est devant nous, nous avons la possibilité, bien sûr, à l'extérieur, à l'école, au travail, mais surtout dans la famille, de manifester ces choses. C'est là où ça doit commencer. La famille, qu'il n'y ait plus de décalage entre ce qui se passe à la maison et comment ça se passe à l'extérieur. Qu'il y ait une harmonie parce que c'est Dieu qui le fait et que ce soit pour sa gloire. Prions pour demander son aide ce matin. Notre grand Dieu, nous te louons que tu as dirigé Pierre à écrire ces versets il y a bien longtemps, que tu les as préservés jusqu'à nous aujourd'hui et qu'à travers ces versets, tu nous enseignes. Merci que tu nous rends capables lorsque nous te demandons. Merci que tu nous montres là où nous sommes faibles et par ta puissance, tu nous fortifies. Nous implorons ton aide parce que nous sommes insuffisants. Nous sommes trop faibles. Nous voyons ce que tu attends de nous. Et pour nous, c'est impossible, mais avec toi, tout est possible. Que tu parles au cœur de chacun, qu'à travers cette journée, cette semaine devant nous, par ta puissance, par ta grâce, nous cherchions à mettre en pratique ces vérités, qu'il y ait de réels changements dans la famille cette semaine. Qu'il soit évident que tu es à l'œuvre par de petits changements comme par de grands changements. Que tes enfants puissent te refléter davantage, qu'il y ait un plus grand impact sur notre entourage parce que nous reflétons ces vérités. Et que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent parce que c'est toi qui l'auras fait, ce sera évident. Et Seigneur, nous te louons d'avance pour ce que tu vas faire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.